Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est la plus grande mobilisation contre les violences faites aux femmes. Une marée violette démarche partout dans le pays pour témoigner d'abord d'une prise de conscience et réclamer un sursaut et des actes. La réponse du gouvernement, c'était ce matin. Le Premier ministre a aligné une série de mesures, amélioration de l'accueil des femmes dans les commissariats, numéro d'urgence ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou encore une formation des enseignants sur le sujet, avec la promesse notamment de changer la loi pour priver par exemple d'autorité parentale l'auteur des coups. Mais est-ce suffisant pour faire baisser le nombre de victimes, 138 encore cette année? Comment expliquer qu'un tiers des femmes victimes avaient pourtant signalé leur situation? Assiste-t-on vraiment à un changement de mentalité, de méthode sur le sujet féminicide? Alors on change quoi? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste au journal L'Express. Vous venez de publier Macron sous les masques aux éditions de l'Observatoire. Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde, votre journal qui titre aujourd'hui un nouvel arsenal législatif contre les féminicides. Nous y reviendrons très largement. Laurence Rossignol, vous êtes sénatrice de l'Oise, présidente de l'Assemblée des femmes. Vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée de la famille, de l'enfance et des droits des femmes. Enfin, Evelyne Sirmarin, vous êtes magistrate, présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles. Vous êtes ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Vous avez présidé pendant 3 ans une chambre spécialisée dans les violences conjugales au tribunal de grande instance de Paris. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va évidemment détailler l'ensemble des mesures et l'évolution des mentalités peut-être hein, sur ce sujet-là. Mais je voudrais qu'on s'arrête un instant sur une femme, sur une ministre, sur Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État aux droits des femmes, qui s'est emparée de ce sujet-là. Est-ce que c'est un sujet, Christophe Barbier, qu'elle porte? Elle n'a pas beaucoup d'administration dans ce ministère-là. Votre voisine de gauche en sait.
Moi, j'étais ministre.
Vous aviez le statut de ministre.
J'étais ministre, totalement.
Alors qu'elle est secrétaire d'État et elle a 5 collaborateurs dans son ministère. C'est elle qui porte, avec une forme de volontarisme politique affiché, ce sujet-là?
Oui, d'évidence. Elle le porte dans la continuité de son combat avant l'aventure politique, c'est-à-dire un combat associatif. Elle a toujours été très engagée sur tous les combats qui concernaient les droits des femmes et elle a embrassé finalement ce quinquennat avec la volonté de donner du corps, du concret à ce que Emmanuel Macron appelait l'un de ses grands chantiers, l'une de ses priorités du quinquennat. Mais les droits des femmes, on pensait que ça irait plutôt vers l'égalité salariale, peut-être vers la PMA, l'accès à l'enfant. D'ailleurs, une loi a été faite. On a vu surgir dans la société, avec une sorte d'électrochoc, un phénomène qui était pourtant ancien, mais sur lequel il y avait une sorte de cécité collective, qui est les violences faites aux femmes, et particulièrement les meurtres de femmes. Et Marlène Schiappa s'est retrouvée à devoir, dans un contexte mondial, MeToo, balance ton porc, harcèlement sexuel, harcèlement moral, elle a dû devoir gérer cet état d'esprit nouveau dans la société, avec ses embardés, avec ses millimélos, avec ses justes combats, avec cette volonté d'une société de trouver le plus rapidement possible des remèdes immédiatement efficaces à un phénomène ancestral, presque civilisationnel. Et elle essaye de se dépatouiller là-dedans en ne donnant pas sur des cas particuliers un avis politique qui semblerait empiéter sur ce que la justice doit faire, en allant le plus loin possible dans le volontarisme sociétal, sans outrepasser ce qu'elle peut faire en ayant en effet un grade assez faible au gouvernement et avec une majorité derrière qui doit transformer ça en texte de loi. Donc c'est très délicat quand même pour elle comme positionnement. Elle ne peut pas être qu'une égérie, une leader, une associative aventurée en politique. D'autant que Nicolas Hulot a tenté ça sur un autre sujet, l'écologie, il s'y est brûlé les ailes. Donc il faut en politique.
Elle est issue de la société civile.
Oui, elle est issue de la société civile. C'est d'abord son combat associatif sur les réseaux sociaux, à travers aussi son activité sur les réseaux sociaux, qu'Emmanuel Macron l'a repéré et l'a fait venir.
On en parle parce que c'est un personnage à part au sein du gouvernement, Raphaël Baquet. On se rappelle que c'est elle qui était allée chez Cyril Hanouna au sort des Gilets jaunes, au moment du grand débat. Elle avance au culot.
Elle saisit surtout un sujet de société quand même, hein, parce que
c'est-à-dire qu'elle est portée par la poussée de ce qu'on a vu d'ailleurs ce week-end.
C'est la société qui s'est quand même mobilisée, et d'ailleurs pas seulement le monde politique qui est un peu en retard, c'est plutôt la société, la presse qui y vient aussi, parce que Dieu sait que là aussi on a vu des tas de journaux titrer pendant des années sur des meurtres de femmes par leurs conjoints, drames passionnels, ironiser ou même parfois faire des plaisanteries sur ce genre de choses. Donc la presse aussi change en même temps, et je pense que c'est une poussée de toute la société qu'elle attrape, qu'elle endosse, qu'elle incarne, et c'est quand même tout à fait normal de la part de la secrétaire d'État aux droits des femmes.
C'est un sujet, par le passé, au moment où vous étiez aux responsabilités, oui. sur lequel on pouvait capitaliser politiquement. Est-ce que là-dessus, les choses ont changé pour les raisons que vous venez d'évoquer? Parce qu'il y a, ce qu'on a vu ce week-end, hein, il y a eu une mobilisation inédite. On n'avait jamais vu autant de personnes dans la rue pour défendre les droits des femmes et lutter contre les féminicides. Aujourd'hui, on peut capitaliser politiquement sur ces sujets-là.
Ce gouvernement a une chance incroyable de ce point de vue-là. C'est-à-dire que depuis 2 ans, alors qu'au départ, il y avait une grande cause, égalité femmes-hommes, dont on peine parfois à voir en quoi elle est grande dans l'action gouvernementale, mais en tout cas, elle est grande dans la société, c'est sûr. Et le gouvernement a eu d'abord MeToo, un mouvement d'opinion, d'expression, de médiatique, puis maintenant la manifestation de samedi, c'est une manifestation remarquable quand même. C'est un mouvement social, c'est pas simplement un mouvement d'opinion, c'est un mouvement social.
C'est quoi la différence ?
Un mouvement social, c'est un mouvement qui est dans la confrontation et dans la revendication. C'est pas simplement dans une C'est pas pour témoigner, puis c'est pas simplement une sensibilité de l'opinion. C'est pas simplement du compassionnel. Les femmes qui étaient dans la rue, les garçons qui étaient dans la rue samedi, ils demandent un des moyens et deux, ils s'attaquent quand même à un pilier de notre civilisation qui est le patriarcat. Parce que la question des violences, c'est les violences patriarcales, si on doit les nommer, bien plus que conjugales d'ailleurs. Parce que conjugales, on sait pas bien qui tape sur qui. Tandis que la majorité des cas, c'est les violences patriarcales. Donc ce gouvernement a une chance remarquable de pouvoir s'appuyer sur un mouvement de société, d'être poussé d'un certain point de vue. Et donc il faut qu'il en fasse le maximum. Et de ce point de vue-là, Marlène Schiappa, qui parle bien, qui est active, elle est volontaire. Et elle y va. Elle est portée, tant mieux, et on voudrait des résultats. Mais on attend aussi.
Mais vous voyez les choses qui ont... Encore une fois, vous êtes une observatrice privilégiée de ces sujets-là pendant des années, depuis des années. Vous avez vu quand même les choses changer, mais même, pardon, dans la perception de l'ensemble de la classe politique aujourd'hui sur ce débat-là. J'ai un peu de mémoire, moi aussi, je me souviens que c'était des sujets, c'était toujours relégué à la fois à la fin des journaux, dans des tout petits passages dans les journaux, dans les faits divers, mais ça ne faisait jamais la une de l'actualité
politique.
Les chiens
écrasés, on appelait ça même les faits divers dans les journaux, dans les journaux locaux, la rubrique des chiens écrasé. Et dedans, on y trouvait les meurtres de femmes. Non, ça a considérablement changé, mais progressivement, parce que, en fait, moi, je pense qu'on en est à la 4e vague du féminisme.
Et quoi, les autres avant ?
La première, c'est 45, le droit de vote. La deuxième, c'est 65-75, les droits sexuels et reproductifs, contraception, avortement. La troisième, c'est la parité dans les années 2000. Et là, la 4e 2020, en gros, c'est tous les 20 ans, à peu près, la 4e 2020, c'est celle de la confrontation avec les violences patriarcales. Donc, c'est-à-dire chaque nouvelle génération de féministes bénéficie de ce que la précédente et les précédentes ont apporté et défriche un nouveau sujet. On y allait step by step, marche par marche. Et puis, on a lutté quand même pendant longtemps contre l'idée que c'était des affaires privées. C'était privé, on poussait pas la porte des voisins, puis tout un tas de représentations terribles. Qu'est-ce qu'ils se disaient quand tu veux intervenir chez la voisine, mais tu sais comment, c'est toujours pareil. Tu sonnes et puis ils se mettent d'accord tous les deux, ils se rabibochent. Les policiers disaient madame, rentrez à la maison, ça va bien s'arranger avec votre mari. Et c'était privé. Et
ça puis, se passe parfois encore comme ça. Hein.
Ça se passe encore comme ça, bien sûr. Et ce grand slogan des féministes des années 70 qui disait le privé est politique, eh bien là, on y est, le privé est politique.
Ce que je retiens dans les vagues que vous nous exprimez à l'instant, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de résistance, si Ou est-ce que ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire davantage de droits, davantage d'égalité?
Les résistances, elles sont là, elles existent, mais globalement, les femmes sortent plus fortes de chaque vague et donc plus à même d'affronter les résistances.
Évelyne Thiamarin, vous voulez dire ?
Oui, deux choses. D'abord, sur la question purement juridique.
On va en parler.
Il y a 9 textes quand même qui, depuis 12 ans, ont aggravé les sanctions en matière de violence, injures, jusqu'au meurtre, mais contre à la fois le conjoint, puisque le code pénal, ce qu'il connaît, c'est des circonstances aggravantes, c'est-à-dire le conjoint, le mineur, celui qui est d'une minorité sexuelle, etc.
Ce que vous voulez dire, c'est que ça a déjà commencé il y a une douzaine d'années,
c'est un phénomène absolument certain dans le code pénal, à savoir que, par exemple, exemple, pour les mineurs, si vous commettez une agression sexuelle sur les mineurs, la peine est passée de 5 à 10 ans. Bon, de façon générale, donc, les lois ont quand même beaucoup avancé du point de vue de la répression pénale.
Sous quelle impulsion ?
Je crois que c'est sous une impulsion sociale. D'accord. Sachant que, bien évidemment, dans le code pénal, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est plus puni parce qu'on a commis une violence contre sa femme, mais contre son conjoint. Puisque, à 85%, évidemment, les violences, les féminicides, c'est contre les femmes, mais il reste quand même un chiffre marginal, 15%, il y a entre 20 et 30 personnes, hommes, tués par an, parce que ce sont des hommes tués par leurs femmes ou des femmes tuées par leurs compagnes. Bon, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je crois aussi qu'il ne faut pas ignorer le fait que les sujets sociétaux sont des sujets qui, dans ce gouvernement, sont extrêmement efficaces, en quelque sorte, et uniques pour masquer aussi un certain mécontentement social. Les sujets sociétaux, ouais, et les sujets sociaux, c'est pas la même chose. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas un sujet essentiel et important. Maintenant, ça arrive aussi dans des circonstances où on va avoir de très grandes grèves, sans doute sociales, les gilets jaunes, tout ce que vous pensez.
Ça, c'est, ça je suis d'accord avec vous, ça fait l'objet d'une émission politique, voilà, et on en reparlera, je vous assure. Mais là, on est vraiment...
Ça ne peut pas être vu tout seul. On est dans un problème global.
Mais là, on essaie de décrypter, voilà, et on va avoir besoin de vous pour décrypter les annonces. Et il y en a eu en matière de droit. On va y revenir. Je voudrais qu'on voit le premier reportage, comme ça on fera un point sur les mesures. La concertation avait été lancée au mois de septembre pour déboucher sur un Grenelle des violences conjugales. Un intitulé, d'ailleurs, il faut le dire, assez ambitieux pour marquer la volonté politique du gouvernement. Résultat ce matin avec l'annonce d'une cinquantaine de mesures et des associations plutôt déçues pour l'instant du manque de moyens après la mobilisation citoyenne de ce week-end. Mathieu Lignot, Dominique Lemarchand.
Ce matin, Matignon rend son rapport contre les violences faites aux femmes. Des conclusions d'un Grenelle très attendu. Depuis le début de l'année, 138 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Pour Édouard Philippe, cela ne peut plus durer.
C'est le regard de toute une société qui doit changer. La façon dont nous envisageons les rapports entre les hommes et les femmes, bien sûr. La façon dont nous envisageons la violence dans ces rapports, la dénonciation très tôt, systématique, de cette violence comme mode ne serait-ce qu'envisageable.
Une cinquantaine de mesures sont retenues par le gouvernement, comme par exemple un meilleur suivi des hommes violents. Le 3919, le numéro d'urgence, sera accessible 24 heures sur 24. La création de 80 postes spécialisés dans les commissariats, ou encore la suspension de l'autorité parentale pour un auteur de féminicide. Au total, 361 millions d'euros de budget. Un premier pas insuffisant pour les associations.
Nous, on demande minimum 500 millions, mais c'est pas pour le chiffre. Nous, c'est parce que derrière ces 500 millions, il y a par exemple les 2000 places d'hébergement spécialisées. C'est parce que derrière ces 500 millions, il y a par exemple la création de maisons des femmes, qui sont des lieux d'accueil uniques pour aider les femmes sur toutes leurs démarches.
Si on n'évalue pas ce qui est prévu aujourd'hui, on fera ce que les autres gouvernements ont fait, c'est-à-dire un empilement de mesures qu'on n'évalue pas et qui petit à petit tombent en désuétude parce qu'on ne les applique pas.
Pour faire entendre leur voix, manifestation partout en France samedi dernier à l'appel du collectif Nous Toutes. 130 000 personnes défilent dans les rues de plusieurs villes, 49 000 ici à Paris. Une marée violette contre les violences sexuelles et sexistes pour mettre la pression sur le gouvernement.
Ce gouvernement a fait quand même de la lutte contre les violences, et de l'égalité plus généralement, la grande cause du quinquennat, mais c'est vraiment juste de la plaisanterie, quoi. Parce qu'en fait, quand vous regardez au bout du bout, les associations ont moins d'argent, les centres d'IVG, vous avez la clause de conscience, les médecins ne veulent plus pratiquer. Dans toutes les parties de la société, c'est très très compliqué pour les femmes.
En plus de moyens supplémentaires, c'est tout un modèle de société dominé par le patriarcat qu'il faut changer.
C'est un cercueil donc qui représente le patriarcat et tout ce qu'il implique, c'est-à-dire toute la violence qui en découle. C'est avant tout pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour préserver des vies.
À un moment, il faut former les policiers. On sait que la police est une police patriarcale, on le sait. Donc il faut les former, il faut comprendre ce que c'est que la violence patriarcale que subissent ces femmes.
Pour mieux protéger les femmes des violences, le gouvernement prévoit un projet de loi avec 13 mesures judiciaires. Les violences psychologiques seront dorénavant prises en compte. France Barré a été victime de ce phénomène d'emprise. Pendant 28 ans, elle raconte avoir été frappée par son ancien conjoint. Une violence physique et psychologique devenue comme une prison.
J'en arrivais en fait, quand on avait comme ça juste des échanges verbaux, à me taire le plus rapidement possible, parce que je savais qu'il était capable, comme ça, en une fraction de seconde, de passer à un acte violent. Et c'était en fait un stress psychologique et une pression permanente. En fait, j'avais peur. Je me suis retrouvée des fois face à la mère en voiture en me disant « j'y vais ou j'y vais pas ». Bien sûr. Alors, bien sûr, moi j'ai eu la chance d'avoir des jolies voitures et des fois je sais que je partais et je roulais à fond et je pensais « est-ce que je donne le coup de volant pour aller dans le fossé ?» Ouais.
L'année dernière, 217 femmes se seraient suicidées à cause de violences conjugales. Désormais, le suicide forcé pourrait apparaître dans le code pénal pour condamner plus lourdement ces hommes violents.
Alors, peut-être qu'on va commencer par cette mesure-là qui a fait beaucoup parler, parce que c'est un vrai changement, hein, le fait de...
Oui, je suis un peu, heureusement que je suis assise, parce que quand même, le suicide forcé, évidemment que ça existe, bien sûr, mais ce qui m'interroge, c'est, comme dans beaucoup de mesures, hein, la question de la preuve. Alors, je voulais simplement vous dire que, par rapport au reportage, les violences psychologiques sont évidemment punies au même titre que les violences physiques, de 3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende depuis 2010. Donc, l'aspect « il m'a insulté, il m'a menacé », etc., ça, si vous avez, comme toujours en justice, preuve. Une preuve, c'est-à-dire un certificat médical d'un hôpital qui dit qu'effectivement, la personne a dit ci, a dit ça, là, l'auteur peut être condamné.
Qu'est-ce que ça change, le fait que la notion d'emprise va faire dans son entrée dans le code pénal et civil ? Qu'est-ce que
Alors,
ça veut dire ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois qu'il y aura un vrai, vrai problème de preuve. Comme je vous le dis, la contrainte est déjà quelque chose qui est tout à fait pris en compte dans un certain nombre d'infractions et les violences verbales. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'en ce qui concerne les violences conjugales, de toute manière...
Il y a l'autorité parentale aussi qui est...
Alors, l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est 378 du Code civil. On ne va pas faire du droit, mais quand on a un homme ou une femme qui tue son conjoint, c'est-à-dire s'il y a un crime, de façon générale, un crime sur le conjoint, là, l'autorité parentale peut être retirée. Mais que ce soit dans ce cas ou dans un autre, ça sera toujours un juge qui décidera. Pour l'instant, dans une démocratie, l'autorité parentale ne peut pas être retirée avant la culpabilité. C'est l'évidence même.
Ça ne peut pas changer.
De toute manière, on a un article qui le prévoit déjà lorsqu'il y a un crime qui est commis sur le conjoint. Pas lorsqu'il y a un délit, c'est-à-dire les violences, les agressions sexuelles, etc., qui, heureusement, n'aboutissent pas à un meurtre.
Je vais vous poser la question autrement. On a vu dans le reportage une pancarte sur laquelle est écrite « On tatoue justice française ». On a garde des Sceaux qui a fait une sorte de mea culpa au nom de la justice française en disant que c'était un rapport de ses services, 98 homicides conjugaux et tentatives commis entre 2015 et 2016 qui avaient été analysés. Dans 41% des cas, la victime était déjà signalée. Est-ce que les leçons ont été tirées de ces chiffres-là ? Dans les annonces, c'est juste pour essayer de comprendre, dans les annonces qui ont été faites aujourd'hui, est-ce qu'il y a des outils dont la justice avait besoin pour faire mieux ?
Moi, ce que je regrette, d'abord, vraiment deux choses rapides. Premièrement, il y a un tiers des femmes victimes de violences qui ne portent pas plainte. Donc, en amont, il faut absolument essayer d'améliorer ça. Et ça, je ne trouve pas qu'il y ait toutes les mesures nécessaires. Et notamment la main courante, qui est quelque chose de tout à fait dangereux, puisque quand vous portez plainte, au moins, il y a une enquête. Quand vous faites une main courante, de façon générale, il ne se passe rien. Et les femmes, elles croient qu'il va se passer quelque chose. C'est tout à fait légitime. Deuxième chose, une fois que la plainte est déposée, c'est-à-dire pour à peu près 78 000 cas sur les 220 000 femmes qui disent être victimes de violences, donc ces 78 000 cas, une fois que la plainte est déposée, là, il y a des dysfonctionnements. Mais pour finir, ce que je regrette dans ces mesures, c'est que, vous voyez, souvent c'est dans la période de rupture, de difficulté du couple que ces violences se produisent, très souvent, et il n'y a aucune mesure de renforcement des effectifs des juges des affaires familiales, des juges des enfants qui sont absolument essentiels, des juges pénaux. Bon. Donc c'est très bien, mais les moyens ne sont pas là du point de vue du judiciaire et pour finir du point de vue des policiers, des brigades spécialisées.
On va en parler aussi des policiers. Laurence Rossignol, sur la partie judiciaire juridique des annonces du gouvernement, on avait l'impression qu'il y avait des choses qui avaient bougé, mais visiblement pas tant que ça.
Sur l'autorité parentale, ça concernera les pères qui ont tué leur femme, la mère de leurs enfants. C'est-à-dire, ça sera post-condamnation aux assises.
Pardon, mais ce n'était pas le cas jusque-là.
Si, c'est le cas en cas de mort.
Alors, on va laisser finir.
C'était pas automatique.
Ça ne sera pas automatique.
Voilà.
On va laisser finir, si vous voulez bien, Laurence Rossignol.
Mais c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. J'étais il y a 2 heures avec le barreau de Paris qui faisait une grande conférence sur les violences faites aux femmes. Et les policiers qui étaient présents, ainsi que les avocates, nous disaient qu'en ce moment, pour avoir un rendez-vous pour un certificat pour une ITT psychologique, c'est-à-dire intervention de travail psychologique, qui est la preuve en droit, c'est ce qui permet d'évaluer le dommage. Il faut prendre le rendez-vous aujourd'hui pour avoir un entretien en avril. Donc, on est à 4 mois. C'est-à-dire que pendant 4 mois, la procédure est gelée, puisqu'il faut attendre ce certificat, parce qu'à l'unité médico-judiciaire de Paris, c'est 4 mois et demi d'attente. Là, je n'ai pas vu, dans ce qui a été annoncé ce matin, ce qui allait résoudre ces problèmes-là. Et c'est pendant ce temps-là que les violences s'aggravent. C'est pendant ce temps-là que la femme n'est pas protégée et que l'auteur n'est pas condamné. Donc, il y a des mesures judiciaires. Elles sont, à mon sens, ce qui est fait est bien, mais on est loin du compte quand même. Dans les violences qu'on appelle post-séparation dans le jargon, par exemple, dans l'ordonnance de protection qui est discutée en ce moment au Parlement. L'ordonnance de protection, c'est une mesure temporaire qui permet de mettre une femme à l'abri de son conjoint, qui ne sache pas où elle habite, qu'il ait une mesure d'éloignement de là où elle vit. J'ai proposé, avec plusieurs de mes collègues, que la fameuse autorité parentale soit suspendue pendant l'ordonnance de protection, puisque la femme est à la fois en danger et a été victime de violences. Le gouvernement ne veut pas. Je ne comprends pas pourquoi. Ça veut dire qu'une femme mise à l'abri, adresse inconnue, par exemple, comme elle devra toujours exercer l'autorité parentale conjointement avec son mari, il pourra savoir où les enfants sont à l'école et il la retrouvera par le biais de la scolarisation des enfants.
Alors, j'entends ce que vous dites avec votre parcours, qui est chacun le vôtre. Vous dites que ce n'est pas suffisant, il aurait fallu aller plus loin, ils ont raté la cible. On a l'impression, quand on regarde quand même, qu'il y a des annonces, en tout cas, qui étaient attendues. On peut parler de ce numéro qui sera disponible désormais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, il y a cette question. Sur qui on tombe quand on compose le 39-19? Qui est-ce qu'il y a de l'autre côté du téléphone?
Un écoutant ou une écoutante?
Oui, c'est tout.
Et donc, qui fait un signalement?
Le 39-19 n'est pas un numéro d'urgence.
Je vous pose la question à dessein.
Voilà, ce n'est pas un numéro d'urgence, c'est important de le dire. C'est un endroit où on va trouver quelqu'un à qui se confier, qui va pouvoir vous orienter vers une association, vers un dépôt de plainte, etc. Donc il ne faut pas croire que le 39-19 va envoyer les pompiers.
Voilà.
Je voudrais juste dire à nos auditeurs combien c'est important une politique spécifique contre les violences faites aux femmes, parce qu'on a l'impression qu'on parle comme ça. La France est quand même à la traîne en Europe. D'abord, en valeur absolue, si vous voulez, l'Allemagne est juste devant nous et nous sommes derrière. Si on rapporte ça à la population, la Roumanie, la Hongrie, la Finlande sont, hélas, dans le peloton de tête des féminicides, mais nous sommes en 5e position.
D'accord.
Bien loin devant, parce que j'entends souvent « oui, c'est notre civilisation latine ». Pas du tout. On est devant l'Espagne, l'Italie. Donc, mais ces pays-là, et notamment l'Espagne, ont mis en place des politiques spécifiques.
C'est quoi la différence?
Et ça a fait décroître considérablement le nombre de féminicides. Comme quoi, on peut agir très concrètement. Et alors, c'est vrai que, par exemple, si on regarde l'Espagne, mais on peut regarder le Canada aussi, qui met en place des mesures spécifiques, c'est vrai que, par exemple, mettre en place des tribunaux spéciaux, mettre en place des bracelets systématiques d'éloignement, si vous voulez, ça a un impact très important. Là, dans les mesures, par exemple, sont proposés 1000 bracelets supplémentaires. En Espagne, c'est 20 000 bracelets qui sont proposés aux hommes qui commettent des violences sur leurs femmes et qui donc font l'objet de mesures d'éloignement. Et ça, si vous voulez, ces politiques très spécifiques, très détaillées, elles ont un impact. C'est pour ça que c'est très important de regarder les mesures, mesure par mesure. Or, il y a des pays qui les ont expérimentées, donc on peut effectivement les prendre pour modèle.
Et dans les mesures qui sont annoncées aujourd'hui, laquelle vous semble être la plus forte, la plus attendue ?
Je trouve que la saisie d'armes chez des hommes violents qui peuvent être amenés à s'en servir pour tuer leurs femmes, c'est quelque chose de très très important.
Ce qui était dingue, c'était que ce n'était pas fait.
Et oui, ce n'était pas fait. Alors évidemment, les armes à feu, y compris les armes type fusil chasse, pas forcément les armes de guerre, mais aussi les armes blanches. Alors là, c'est compliqué, on nous parle des sabres, il n'y a pas énormément de gens qui ont des sabres chez eux. Jusqu'où faut-il aller ? On peut tuer quelqu'un avec un couteau à viande. Hein. Donc là, je pense que c'est...
Les féminicides sont à l'arme blanche.
Oui, à l'arme blanche et des armes domestiques, pas des armes qu'on va chercher dans des armureries spécialisées. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui est ouvert, qu'il faut poursuivre pour rendre la personne inoffensive ou la moins offensive possible. Ce gouvernement est engagé quand même dans un triple chantier. Il veut changer les mentalités, le fameux patriarcat, il veut changer les institutions, la justice, le secret médical, un autre point très important de ces réformes, et il veut changer aussi le concret, le bon sens, les petites choses, les adresses, les bracelets. Ça fait beaucoup en même temps, avec des moyens budgétaires évidemment limités.
Vous vouliez dire un mot ?
Oui, sur les armes. D'abord, comme vous le savez, la majorité, évidemment, des meurtres sont commis par des objets domestiques. C'est terrible. Enfin, un oreiller, un marteau, un couteau, ouais, etc. Donc, bon, on ne va pas saisir ça dans toutes les maisons.
C'est
et deuxièmement,
de police,
juridiquement,
ouais,
juridiquement, au niveau de l'enquête préliminaire, quand quelqu'un est soupçonné d'avoir commis une infraction, c'est-à-dire, je vais dire à la police que mon mari a un fusil et que... il est dangereux. Ça suffit à déclencher une enquête préliminaire. Donc là encore, je suis désolée de dire que, en fait, cette mesure, elle est déjà tout à fait possible. On voit bien que sur le Grenelle, si vous voulez, il y a énormément de mesures d'ordre symbolique, idéologique. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires, mais les mesures qui sont d'ordre réel, efficace, matériel, budgétaire,
là,
elles ne sont pas
Gardez la parole juste pour nous parler de la médiation pénale.
Oui. La médiation pénale.
Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Il paraît que c'est important et elle est bannie, elle n'existera plus ?
Ah, alors là, ça, je suis très, très étonnée parce que comme ancien juge des enfants et comme tous mes collègues juges d'affaires familiales, ça fait des années qu'on travaille sur la médiation pénale.
Qu'est-ce
que c'est,
la médiation pénale ?
Ça veut dire que, par exemple, dans un cas de violence d'un père, la majorité des cas, par rapport à la femme ou aux enfants, le juge des enfants essaye, en attendant que la sanction pénale soit prononcée au niveau correctionnel, de mettre en place de la médiation familiale, c'est-à-dire des lieux d'accueil neutres où le violent verra ses enfants en présence d'éducateurs, d'assistantes sociales. Et alors, vraiment, dans la justice française, ça fait 20 ans que c'est quand même une issue, une possibilité, où on se dit, certes, il faut punir, mais il faut aussi rétablir quand même le lien...
Préserver la famille, voilà, c'est ça ?
Préserver le lien quand même du père avec ses enfants dans un milieu tiers qui n'est pas un milieu dangereux. Et c'est ça le problème, c'est que là, moi, j'ai l'impression qu'on met uniquement l'accent sur la répression. Vous voyez.
C'est-à-dire que là, on se rend compte avec ces mesures-là, et vous allez dire si je me trompe, que pendant des années, on s'est dit on peut avoir un père violent, mais c'est un bon père quand même. Et bien là, on dit non.
Moi, je trouve que c'est la bonne mesure, la bonne annonce, c'est celle-là. Mais ceci dit, ça devrait déjà être proscrit de notre façon de rendre la justice que de recourir à la médiation pénale quand il y a eu des violences conjugales. C'est la Convention d'Istanbul, la France l'a ratifiée, donc on devrait l'appliquer. Et cette obsession des juges à vouloir rabibocher les liens familiaux, le papa, les enfants, la maman, alors que 15 jours avant, papa tapait sur maman à tour de bras et aussi sur les enfants parfois, dans la foulée, je trouve qu'enfin c'est bien. Ce que je voulais vous dire, je ne voudrais pas avoir l'air de bouder les mesures,
oui,
mais... Quand ce gouvernement est arrivé, on en était au 5e plan de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rien passé avant, ni sur le plan du code pénal, je parle d'avant moi, ça a commencé en 2009-2010. Le code pénal comporte quasiment tout ce qu'il faudrait pour bien lutter contre les violences. On a déjà depuis longtemps une approche pluridisciplinaire. On sait faire le lien entre intervenants sociaux, commissariats, la place des parquets, la place des offices d'HLM, de logement social, pour pouvoir... Tout ça, on le sait. Et en fait, on n'a pas atteint les objectifs qu'on voulait. Donc ça veut dire quoi ? C'est que la manière dont on applique la loi n'est pas utile, elle n'est pas efficace, elle n'est pas performante. Qu'est-ce que je vois là? Un gouvernement qui rajoute des nouvelles mesures, donc ça pourrait être le sixième plan de lutte, mais rien ne change. Et je suis d'accord, la question centrale, et c'est ma grande déception, c'était la justice spécialisée, celle où on a des juges qui s'intéressent à ça, qui font appel à des experts qui s'y connaissent en psychotrauma, parce qu'on voit des experts en tribunaux qui ne connaissent rien en psychotrauma, qui viennent émettre un avis sur madame, dire qu'elle manipule les enfants, etc. Où on a des gens qui sont investis là-dedans. Et cette justice spécialisée, elle est indispensable, on rate le coche, et les trains, ils ne passent pas souvent, c'est ça le problème.
Il y a eu une phrase sur « il va falloir former l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale », visiblement, c'est prévu, et une mesure qu'on n'a pas commentée, puisque ça, ce sont des moyens, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, la création de 80 postes d'intervenants sociaux.
C'est des gens qui, dans les commissariats, accueillent les femmes. Pardon, c'est dans un commissariat ou dans une gendarmerie. C'est une personne qui n'est pas un agent de police, qui ne prend pas les plaintes, qui accueille les femmes et qui leur permet de parler et qui fait un premier accueil, qui l'entoure déjà en arrivant. Et les intervenants sociaux sont indispensables parce que parfois, les policiers, ils ne savent pas faire prendre les plaintes des femmes victimes de violence. Et ce n'est pas de leur faute. Enfin, tout le monde n'est pas formé à faire ça, et même en les formant.
Ça, c'est bien.
Ça, c'est très bien. Mais il y en a déjà aujourd'hui un certain nombre, il y en aura davantage, c'est encore bien. Ceci dit, on va quand même globalement faire mieux, semble-t-il, avec pas un centime de plus. Et quand on a fini de dire du mal des juges, des policiers, des gendarmes et de tout le monde, de quoi on se rend compte? C'est que ça manque de moyens humains, financiers. Quand il n'y a pas de greffier, la justice est lente. Voilà.
Et donc, on en revient au manque des moyens. Vous voulez dire un mot, Raphaël Baquet? On va avancer vers le deuxième
reportage. Parce que quand on dit les moyens, ça exaspère souvent les gens qui disent « Ah, mais on a déjà trop d'impôts ». Donc, concrètement, quand même, quand on a fait au Monde une cellule spéciale qui enquête sur tous les cas de féminicide de l'année 2018, il y a des cas incroyables. Un homme condamné parce qu'il a tabassé sa femme, il est condamné à une peine d'amende, il sort du tribunal, il va la tuer. Donc, si vous voulez, il y a un vrai problème de surveillance et de mesure d'éloignement des hommes dangereux. Et là, effectivement, ces mesures-là, elles sont très concrètes et elles demandent des moyens pour, effectivement, avoir ces bracelets électroniques, ces systèmes de surveillance.
C'est ça qui est le plus exaspérant dans tous ces dossiers-là, c'est le fait qu'en général, ce sont des personnes qui se sont signalées.
C'est ça les moyens dont on parle qui agacent toujours les citoyens qui ont le sentiment que c'est un mot qu'on répète sans arrêt comme une ancienne, mais c'est très concret parfois. Et ça peut sauver des vies, effectivement.
Alors, c'est l'une des pistes évoquées par le Premier ministre aujourd'hui, la possibilité pour le médecin de s'extraire du secret médical en cas d'urgence absolue. La relation avec le médecin en cas de violence est au cœur du dispositif mis en place à l'hôpital de Saint-Malo. Vous allez le voir, les femmes sont accueillies dans un service spécialisé et ça fait toute la différence. Mélanie Nunes et Stéphane Lopez.
Ouvert nuit et jour, 7 jours sur 7. Les urgences, lieux stratégiques pour détecter les violences faites aux femmes. À Saint-Malo, 40 000 personnes y transitent chaque année. Dès l'entrée, des affiches de prévention.
Les SMS, qu'est-ce que t'as à l'œil? Oh, rien, il a recommencé. Non, t'inquiète pas. Bah si, il faut s'inquiéter et il faut faire quelque chose.
Un effort de sensibilisation voulu par 7 urgentistes, le docteur Boué.
On a une femme qui une fois est venue pour un traumatisme du poignet. Elle était tombée dans l'escalier, comme souvent elle nous raconte ça, elle tombe dans les escaliers. Elle a vu ses affiches. Elle est revenue plusieurs mois après en nous disant « J'ai vu ces affiches, je savais ici que je pouvais parler ». Elles sont souvent dans la honte, elles sont souvent dans la culpabilité. C'est pas facile pour elles, c'est vraiment compliqué pour elles.
Tous les personnels soignants sont formés à ces violences. Avec l'accord des victimes, ces médecins peuvent même envoyer un signalement au procureur. Il en fait en moyenne 2 par semaine.
C'est bien qu'on ait fait le signalement. Je trouve qu'au moins, ça a déculpabilisé la dame. Et au moins, le signalement est fait, c'est parti. J'ai une femme un jour qui m'a dit « De toute façon, j'ai dit à mon mari, maintenant t'arrêtes parce que j'ai l'hôpital derrière moi ». Et ça, c'est important parce qu'on brise l'isolement de ces femmes. Elles savent qu'il y a une institution qui est derrière elles, qui va bouger avec elles, qui va les aider. Et si l'hôpital en tant qu'institution bouge, le parquet en tant qu'institution justice va bouger. Parce que institution à institution, il y a un phénomène un petit peu de synergie, d'entraînement.
Pas question pour autant de toucher au secret médical. Essentiel selon ce médecin pour maintenir un lien de confiance avec ces femmes. Lorsque ces victimes veulent porter plainte elles-mêmes, elles peuvent être accompagnées par cette assistante sociale.
Oui, là, il faut agir.
Oui, tout à fait.
Il faut agir à sa place parce qu'elle ne va pas être en capacité de le faire.
Puis on avait tout, quoi, la violence verbale, la violence psychologique, la violence physique,
sexuelle.
Des victimes suivies par des psychologues, mais aussi par des associations en lien avec l'hôpital.
Après, leur parcours, il n'est pas simple, ça va être compliqué, mais on peut s'en sortir. Et on revoit des femmes après, et la plupart des choses qu'elles nous disent, le principal, c'est « maintenant, je me sens libre ». Et là, on se dit « bon, ben voilà, on a fait quelque chose, on a pu faire quelque chose ».
Se sentir libre, un sentiment qui s'apprivoise peu à peu. Comme pour cette femme de 40 ans qui souhaite rester anonyme, elle a partagé 10 ans de sa vie avec un homme violent qui continue toujours de la harceler.
Quotidiennement, quasiment jour comme nuit, je vivais des intimidations, de la pression, des menaces de mort à l'oral.
Elle se rend alors à l'hôpital de Saint-Malo et finit par se confier à un médecin. Elle sera suivie pendant 6 mois.
C'est un endroit où on se sent protégé dans une bulle et sans jugement, parce qu'en général, quand on parle de notre situation à des gens qui ne sont pas formés, on nous pose des questions comme « t'es sûr de ce que tu veux ?» Mais comment ça se fait que t'as pas vu ça avant ? Et donc ces phrases-là, elles sont culpabilisantes. Et donc ils m'ont aussi orientée vers des gendarmes qui sont formés au dispositif des violences intrafamiliales.
Une victime reçue par ces gendarmes à quelques kilomètres de Saint-Malo. L'adjudante Restou travaille en collaboration avec l'hôpital. La semaine dernière, elle est intervenue au domicile d'une femme violentée.
J'appelle le service des urgences pour les prévenir que nous arrivons avec une personne qui a été victime de violence. À ce moment-là, ils mettent un box de côté afin que dès qu'on arrive, elle soit isolée. Ensuite, pendant l'attente de la prise en charge du médecin, moi, j'ai reçu son audition pour être dans l'efficacité.
La victime sera auscultée et mise à l'abri dans un hôtel. Le passage aux urgences permet aussi une plus grande prise de conscience.
On sait très bien qu'elles ont du mal à déposer plainte. C'est plus facile qu'un médecin et le psychologue leur expliquent, leur fassent. Ils sont là aussi pour faire un bilan de leur situation, parce que bien souvent, elles n'étaient pas conscientes de violence.
Un protocole qui donne déjà des résultats. À Saint-Malo, 56% des femmes victimes qui passent par les urgences portent plainte, contre 16% dans le reste de la France.
Laurence Rossignol, vous connaissez hein, cet hôpital de Saint-Malo où vous êtes déjà allée à plusieurs reprises. On se rend compte du processus, là, de la prise en charge, à la fois par cette femme, gendarme, qu'on vient de voir, qui la met dans un box, et elle est accompagnée avec cette phrase sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête. Elle est prise en charge par une institution. C'est-à-dire, c'est pas simplement quelqu'un qui va tendre une oreille et lui dire « je suis avec toi, je suis là ». C'est une institution.
Mais c'est remarquable ce qui a été fait à Saint-Malo. Et ça tient à un homme, c'est injuste, ce médecin de Saint-Malo, cet urgentiste. D'abord, il a formé tout le personnel soignant de l'hôpital de Saint-Malo à entendre derrière ce que dit une femme qui vient aux urgences en disant « j'ai mal à la cheville » ou « j'ai mal au ventre » et en réalité aller chercher pourquoi elle est là la nuit. Donc déjà, ils sont très vigilants et ils ont mis en place un travail commun avec gendarmerie, procureur, le parquet, les magistrats. Ils se voient régulièrement. Et ce qu'ils ont aussi, vous avez souligné dans le reportage, plus de plaintes qu'ailleurs et surtout moins de réitérations. C'est-à-dire qu'ils ont des résultats en termes de baisse du nombre de réitérations, c'est-à-dire c'est un peu récidive. Quoi. C'est récidive. Oui. Enfin, il y a moins de récidives.
Et ça tient à quoi, à votre avis ?
Ça tient
parce
au fait qu'ils
que les victimes soient mieux prises en charge, ça on l'a vu, mais pourquoi est-ce que ça limiterait le nombre de récidives ?
Parce que comme elles ont porté plainte, il y a des procédures d'engagés, elles ne retournent pas vivre avec le conjoint violent, peut-être aussi les conjoints violents, sachant qu'ils sont entouré et aussi surveillé, encadré par un système. C'est une institution globale. Et là, on a vraiment le travail pluridisciplinaire, pluri-institutionnel, des gens engagés, des résultats. En fait, ce n'est pas d'un sixième plan violence comme on a eu ce matin dont on avait besoin. C'était de Saint-Malo partout en France. Et ça, il y a des moyens humains parce que c'est beaucoup de temps qui
passe. Ça repose sur la volonté d'un homme, là.
Ça repose sur la volonté d'un homme, mais il a formé ses équipes. J'espère que quand il prendra sa retraite, parce qu'un jour, il va bien finir par la reprendre, ouais, à ce moment-là, il y aura de la relâche. relève dans
et
son
c'est équipe. La même chose justement sur la partie sur le volet judiciaire.
Oui, tout à fait. Alors il y a aussi d'autres expériences à Dax aussi, l'hôpital est tout à fait dans la même ligne. Et puis en matière de violence sexuelle, on pourrait tout à fait prendre exemple pour les violences conjugales parce que tout ça c'est un petit peu la même chose malheureusement sur ce qui se fait à Bordeaux avec le COVA. Alors c'est une expérience, c'est exactement ça. C'est-à-dire il y a un lien entre les services de santé, les services de police, les services judiciaires. L'idée, c'est de dire aux femmes que, de toute façon, de deux choses l'une, ou elles ne portent pas plainte, et elles croient que peut-être ça va s'arranger, qu'il va se calmer, ce n'est jamais le cas, ou, puisque un tiers des femmes qui ne portent pas plainte, de toute façon, il y a quand même des violences, et ou elles portent plainte, et là, effectivement, une institution les prend un peu, enfin, les abrite de manière générale. Ce que je trouve intéressant dans le Grenelle, à cet égard, c'est qu'il a été proposé, comme l'expérience du procureur de Douai, de l'ex-procureur de Douai, M. Frémiot, il a été proposé aussi des centres d'hébergement pour hommes, c'est-à-dire... C'est pas du tout dans le même cadre que pour les femmes. Pour les femmes, c'est volontaire, c'est pour les mettre à l'abri, c'est si elles se sentent en danger, si elles veulent pas retourner chez elles. Parce qu'une fois que vous portez plainte, vous avez peut-être un bon de taxi, et là, c'est, excusez-moi de la vulgarité, c'est votre fête, hein, en principe. Pour les hommes, c'est pas du tout la même chose. L'idée du centre d'hébergement, il y a 4500
hommes... C'est un centre d'hébergement ou d'éloignement ?
Alors, centre d'accueil, d'hébergement, d'éloignement. Il y a une fédération... Hein, d'accueil des hommes victimes de violences qui s'occupent de ça, qui les écoutent, qui essayent de les soigner. Mais là, c'est, si vous voulez,
l'idée... Je ne comprends pas. Ce sont des centres d'hébergement pour les hommes violents.
Des centres d'accueil pour les hommes violents.
Ah, voilà.
C'est-à-dire pour les prendre en charge psychologiquement, mais aussi physiquement. C'est-à-dire que moi, j'ai été juge des libertés. Et très récemment, encore l'année dernière, vous avez un homme violent. Et vous lui dites, bon, contrôle judiciaire. Interdiction de voir votre femme, vous ne mettez plus les pieds à la maison, vous prenez vos affaires, ah mais vous ne pouvez pas aller à la maison, donc vous dites à un copain de passer les chercher, et de toute façon, après vous serez jugé. Oui, mais où est-ce qu'il va ? Donc, ce n'est pas uniquement punir, surveiller, il faut aussi prévenir la récidive. Et ça, on sait que c'est extrêmement utile dans ces cas-là. C'est pour ça que je trouve que la mesure du Grenelle qui dit que pour les hommes violents et pour protéger les femmes, à titre de sanction, de surveillance judiciaire, il faut effectivement que des gens spécialisés s'occupent d'eux. Et ce n'est pas pour les mettre à l'abri, ce n'est pas pour les choyer, c'est pour les punir et les surveiller. Et bien là, je pense que c'est une mesure extrêmement utile pour prévenir la récidive, tout simplement.
Cette question qui fait référence au reportage qu'on vient de voir, la levée du secret médical ne constituerait-elle pas un dangereux précédent ? Alors, on a vu qu'il n'y avait pas unanimité sur cette proposition. Alors, est-ce que ça existe déjà ou pas ? Parce que c'est pareil, ça, on a entendu dire que, c'est, que ça existait.
Il y a une négociation, d'ailleurs, avec le Conseil de l'Ordre, hein, des médecins.
Mais juste Christophe 14, Barbier, sur, y a, en tout cas, on a vu que ça crée une polémique.
Polémique. Le Premier ministre a d'ailleurs dit que ça serait pour des cas très précis, très encadrés. Et donc, si discussion législative il y a, il faudra encadrer cela. Ça existe déjà. Quand il y a un risque mortel pour une personne, le secret médical peut être levé. Mais tout ce qui touche à l'ordre du secret dès qu'on rentre dans le milieu médical soulève à chaque fois ce genre de polémique. Dès qu'on est dans l'ordre de l'éthique, on entre dans le saint des saints d'une profession qui est particulièrement difficile à réglementer.
Avec un argument qui consiste à dire bah, si elles savent qu'on peut... lever le secret médical, elles n'oseront pas venir se confier. Alors, si elles n'ont plus les médecins et qu'elles ne se sentent pas le courage d'aller porter plainte, qu'est-ce qu'il leur reste ?
En tout cas, c'est un argument. Il ne faut pas que l'institution médicale apparaisse pour les femmes victimes de violences, mais qui ont peur de le dire, comme quelque chose où la vérité, d'où la vérité sortirait, qui pourrait alerter leur propre mari violent. Il faut être très délicat avec ça. Mais les professions médicales sont quand même d'abord formées à l'écoute. Donc, avant de dire « Ah, madame, je brise le secret médical, j'appelle la gendarmerie parce que je vois bien qu'il y a une manière de procéder qui peut amener ces femmes à comprendre que c'est leur intérêt de rentrer dans un processus qui va mettre la justice en action. »
Evelyne Sermara, je me tourne vers vous. Ça existe ou ça existe pas déjà ?
226-14 du code. Eh oui, du code pénal. Alors, évidemment, les médecins, infirmiers, assistants sociaux sont tenus au secret professionnel, bien évidemment.
Mais que dit cet article ?
Qu'on peut lever le secret professionnel, c'est une possibilité lorsque soit la victime est un mineur, ce qui est quand même normal parce que là il n'a pas à donner son accord, il est mineur, ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, de son incapacité physique ou psychique, en ce cas-là, son accord n'est pas nécessaire. Une femme qui est violentée, battue, il est évident que si les professionnels de santé... C'est ce que disait exactement M. Barbier, c'est un travail à faire au sein des professionnels de santé en leur disant vous ne risquez rien, son accord n'est pas nécessaire si vraiment elle est en danger.
J'ai une dernière question très vite parce que c'est important, ça concerne nos enfants et les enseignants, parmi les mesures qui sont annoncées, la formation des enseignants sur ces thématiques-là, avec en gros ce thème-là qui sera abordé à l'école pour former les enfants. Il y a du boulot aussi, ça commence tout petit.
Oui, très bien. Moi, je suis étonnée qu'à l'UFM, il n'y ait pas une formation sur les questions d'égalité de genre, déjà. Je crois me souvenir que quand Najat Vallaud-Belkacem a retiré les ABC d'égalité, Benoît Hamon, son successeur, avait annoncé que après les ABCD, ce serait la formation des enseignants. Je pensais que c'était fait, mais au même titre qu'à l'école de la magistrature, on forme déjà depuis plusieurs années en formation initiale les magistrats aux questions de violence conjugale et voilà, sous ces questions. Bon, tant mieux si on les forme.
Parce que dans les cours de récréation aussi, il y a des réflexes parfois qui ne sont pas les bons.
Alors, ça, pareil, loi de 2010, loi de 2014, tous les enfants devraient avoir, tous les collégiens, les lycéens devraient avoir une formation à la sexualité, éducation à la sexualité, à l'égalité et au respect. Rapport du Haut Conseil pour l'égalité et en 2015, je dirais, qui révélait qu'un établissement sur deux ne faisait pas ses formations faute de moyens. En fait, j'aurais préféré entendre le Premier ministre dire voilà, ça existe, un établissement sur deux ne le fait pas, on va mettre les moyens pour que 100% des établissements le fassent.
Pourquoi je vous pose la question ? Parce que, en préparant cette émission, vous avez raconté une visite au Creusot. Et visiblement, vous avez assisté à un cours d'éducation sur l'égalité.
Je l'ai fait.
Vous l'avez fait ? Et vous étiez étonnée des réponses des enfants.
Ah, c'était formidable. C'était formidable.
Parce on va au troisième reportage.
Non, mais c'était formidable parce que je les ai fait travailler sur les insultes.
Oui.
Alors, j'aurais dit, c'est quoi les insultes pour une femme et puis pour les garçons. Et là, ils étaient tout bêtes parce qu'en fin de compte, c'était les mêmes ou des insultes homosexuelles. Et puis après, on a travaillé sur la jalousie. Et je leur demande, alors, qu'est-ce que vous pensez de la jalousie ? Et une petite jeune fille, c'était des élèves de première, techno, pro et générale. Et une jeune fille qui dit, oh, c'est trop mignon la jalousie. Et il y en a un qui dit « Oh bah si elle n'est pas rentrée à 2h du matin, c'est un peu normal d'être jaloux. » Et là, la conversion est partie et la petite qui avait dit « C'est trop mignon », elle a dit « Non, en fin de compte, c'est pas du tout mignon la jalousie. C'est pas du tout mignon. » Et donc, jalousie, violence, possession, voilà. Et
d'où l'intérêt de faire de la formation dans les écoles. Alors, petit à petit, on l'a bien compris, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est toute la société qui bouge, la parole se délie. Après Adèle Haenel, c'est une nouvelle accusation de viol contre Roman Polanski qui a ébranlé le milieu très feutré du cinéma français. Le réalisateur pourrait être suspendu de la société civile des auteurs et réalisateurs en attendant son dernier film en salle est devenu l'objet d'une polémique politique. Pierre Millet et Pierre Dehaene.
C'est à la nuit tombée, à deux pas des cinémas qui bordent la Seine, qu'elles passent à l'action. Camille et Chloé sont des colleuses. Depuis des mois, elles dénoncent à même les murs les féminicides. Mais ce soir-là, ce n'est pas le sujet.
J'accuse Polanski violeur. On reprend le titre de son film qui est en ce moment dans les salles, qui parle de l'affaire Dreyfus, ce qui est pour nous absolument indécent parce qu'on parle en fait d'un déni de justice et il se réapproprie ce déni de justice pour parler de sa propre histoire et on trouve ça absolument indécent.
Ici est programmé le dernier film de Roman Polanski, récemment accusé de viol et condamné par le passé aux États-Unis. Alors les colleuses n'oublient aucun mur. Elles veulent que leur message passe.
C'est juste un éveil en fait qu'on a envie de créer chez les gens, de dire en fait c'est pas anodin d'aller voir le film d'un violeur, c'est pas normal d'aller soutenir l'œuvre d'un pédocriminel et ça devrait pas être accepté en fait qu'il y ait ce genre de film au cinéma et que rien ne soit fait contre cette personne-là.
Devant la salle, certains n'iront tout simplement pas voir le film.
Je décide de pas aller voir le film, de boycotter et de pas aller. Mettre en avant le film de Polanski parce que toute la polémique actuelle avec les manifestations d'hier notamment et tout ça me touche énormément.
Et pourtant, J'accuse est un succès. Plus d'un demi-million de spectateurs l'ont déjà vu à ce jour, alors qu'en France, l'indignation monte. Samedi dernier, lors de la manifestation contre les violences faites aux femmes, le réalisateur est visé. Dans les médias, depuis une semaine, chaque membre du gouvernement est sommé de donner son avis.
Bon, moi, j'irai le voir parce que l'affaire Dreyfus est un sujet qui me passionne depuis très longtemps et parce que ceux qui l'ont vu m'ont dit que c'était un bon film.
Non, j'irai pas le voir parce que moi, j'ai besoin, quand je vais assister à un spectacle, de partager aussi quelque chose avec celui qui l'a créé. Je crois pas partager grand-chose avec un homme qui porte de telles accusations sur lui.
Le monde du cinéma français, lui aussi, a dû s'emparer du sujet. Alors qu'il y a 10 ans, lors de l'arrestation de Roman Polanski en Suisse, le ministre de la Culture lui avait apporté son soutien total.
Ma réaction est la réaction d'une très grande émotion. D'une très grande émotion en tant que ministre de la Culture et de la Communication, parce que je pense que Roman Polanski est un créateur de réputation internationale.
Aujourd'hui, il est suspendu par l'une des principales organisations de cinéastes.
Il y a une partie de la population qui prend à cœur ce genre de fait, qui estime que la justice, en gros, va pas assez vite ou pas assez loin. Ça intimide suffisamment les cadres aujourd'hui du cinéma pour que même eux, qui ont du respect, qui certains sont des amis de Roman Polanski, se disent « Oh là, ça commence à sentir mauvais ».
Un revirement dans un contexte très particulier.
Bienvenue à ce Mediapart Live exceptionnel sur les violences sexuelles au cinéma.
Face aux journalistes de Mediapart, l'actrice Adèle Haenel a raconté les attouchements et le harcèlement sexuel dont elle fut la victime au début de sa carrière.
Je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on ne parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi.
Et si c'était le début d'un grand déballage ? Pas forcément, selon Marine Turchi, qui a mené l'enquête autour d'Adèle Haenel.
On a travaillé sur différents secteurs, la politique, l'université, les syndicats, etc., l'hôpital. On n'a pas eu cette omerta qu'on découvre aujourd'hui dans le monde du spectacle et notamment le monde du cinéma. J'ai posé 2 questions très simples. Comment on fait 2 ans après MeToo pour sécuriser les gens sur les plateaux par rapport aux violences sexuelles et au sexisme? Et qu'est-ce qui, selon vous, a changé 2 ans après MeToo en France, sur les plateaux, dans le cinéma français? Et ces 2 réponses m'ont valu le top 10 des excuses pour ne pas répondre de la part d'acteurs, d'actrices, de gens du monde du cinéma. Donc je me pose une question, pourquoi ce sujet est tabou 2 ans après MeToo?
Signe peut-être d'une industrie qui commence à changer, la présence en tête de cortège samedi dernier de plusieurs actrices françaises comme Julie Gayet, Sandrine Bonner, Alexandra Lamy ou Muriel Robin.
Et cette question, pourquoi les actrices se manifestent-elles pour la plupart si tardivement ? À votre avis, Christophe Barbier.
Les femmes, globalement, quand il y a eu viol, quand il y a eu abus, comme quand il y a violence, se manifestent trop tardivement. Les plaintes qui viennent trop tardivement parce qu'il y a une sorte de chape de plomb de la société, parce qu'il y a une manière dont la société a réussi à retourner le syndrome de culpabilité sur la victime, et tout ça, ça ne craque pas en un seul jour.
C'est pas particulier dans le cinéma français ?
Je pense que ça peut être particulier dans tous les milieux professionnels où l'accession à des postes, à des rôles, peut donner à celui qui ouvre la clé de la bonne porte pour une bonne carrière, peut donner l'impression qu'il a tous les droits. Voilà. Et on le voit avec l'affaire Harvey Weinstein, comme on le voit avec les affaires qui ont été évoquées là. Et évidemment, dans ces milieux-là, entre la pression de ce milieu professionnel, de ces milieux professionnels, et ensuite l'éclat, la lumière, le fait que ce sont des stars, et donc que leur parole, quand elle se libère, prend une force formidable, ça, évidemment, ça crée un effet de contraste qui est particulièrement performant aujourd'hui pour que ce phénomène de société soit fort. D'où leur responsabilité de lanceuse d'alerte de ce côté-là. Mmh. Et encore une fois, depuis le mouvement MeToo, on a fait beaucoup de progrès dans manière de déciler une société sur sa propre
Mais c'est
société.
Toujours aussi dur, on voit bien sûr, à chaque témoignage.
Mais attention, parce qu'il ne faut pas, au nom de cette juste cause et de ce juste combat, en arriver à fouler aux pieds des choses qui sont aussi respectables. La prescription, ça existe en matière de justice. Et le seul crime imprescriptible, c'est le crime contre l'humanité. Si on veut rendre imprescriptible ce genre de délit, de crime, il faut en discuter profondément.
Sur le viol, elle a été élargie à 30 ans.
Voilà. Et après, il y a entre le moment où les faits sont révélés, le moment où, sortant d'un traumatisme, on libère sa parole, on peut discuter de tout cela. Mais il ne faut pas le faire à la légère. Il y a la présomption d'innocence aussi. Combien d'affaires depuis MeToo où des gens accusés par leurs victimes ont été innocentés parce que la justice, à un moment donné, dit...
Combien, cher Christophe Barbier, de dénonciations calomnieuses depuis MeToo.
Je ne dis pas des accusations calomnieuses, je dis des victimes qui sans doute disaient la vérité. Mais la justice, à un moment, dit, écoutez, on n'a pas les preuves, on n'y arrive pas. Regardez, Hulot, la une d'un journal, rien. Darmanin, tous les journaux, rien. Philippe Cobert, que je sache, rien. Éric Brion, l'audiovisuel, rien. Et donc, à un moment donné, on se dit, bon, il faut que la parole se libère. Il faut qu'on dise, il m'a fait ça. Il a voulu me faire ça. Il m'a fait ça il y a longtemps. Il m'a fait ça il n'y a pas longtemps. Et puis, à un moment donné, la justice doit pouvoir dire aussi, certes, peut-être, mais un, on ne le prouvera peut-être jamais, et deux, il y a prescription. Et tout cela, ce sont des sujets extrêmement sérieux qu'il faut aborder avec cette volonté de progresser pour que les victimes soient mieux protégées, mieux entendues, sans tout piétiner. Il faut faire très attention à cela. Il y a un nom qu'on n'a pas prononcé tout à l'heure, c'est Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage, ça a été une affaire très importante, puisque c'est quand le président de la République s'est emparé de son cas pour la libérer de ses peines, qu'on s'est rendu compte que la justice l'avait condamnée, non sans raison, je le dis avec des guillemets, mais il y avait des arguments techniques qui voulaient que cette femme ait été condamnée, parce qu'elle n'était pas en état de légitime défense, parce qu'on considérait qu'elle avait tué son mari violent à des moments où on pouvait penser que... Donc vous voyez le chemin qu'on a parcouru. Aujourd'hui, qui oserait dans un tribunal condamner Jacqueline Sauvage? Quand bien même elle tue son mari, entre guillemets, à froid, des jours ou des semaines après les faits de violence dans l'autre
sens. Donc il y a le c'est tribunal de l'opinion.
Bien sûr.
Et puis, il y a les vrais procès. Il y a le temps de la justice. Oui. Et si on parle de revient sur le dossier Polanski.
Ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. C'est-à-dire que Adèle Haenel a pu expliquer ce qu'elle souhaitait absolument dire, mais aussi parce qu'elle a le capital culturel, médiatique, elle a été entendue, Mediapart, etc. La majorité des femmes, l'immense majorité des femmes, ce qu'elles ont, c'est la police et la justice. Et il faut le dire et le redire, même si, encore une fois, il y a des dysfonctionnements, même si c'est extrêmement pénible pour les victimes, je l'entends. Mais il faut aussi leur dire que c'est la seule possibilité, et puis aussi leur dire que tout est un problème de preuve, et puis qu'on risque la diffamation. Et je crois qu'il y a eu une femme, pour l'instant, qui a été condamnée, mais c'est en appel.
Et non pas parce que les faits étaient erronés, c'est parce que les conséquences de ce qu'elle avait dénoncé étaient considérées comme disproportionnées.
C'est la création du hashtag balance ton porc.
Mais je voudrais juste les faits étaient avérés. C'est pas les faits. Elle n'avait pas menti, cette femme.
Mais il n'y a pas d'autre moyen que la justice et le contradictoire.
Hélas.
On se retourne. Alors, effectivement, c'est un débat passionné. Chacun a son avis sur aller ou ne pas aller voir le film. On l'a très bien vu dans le reportage. Mais quand on se tourne au final, au bout du bout vers la justice, est-ce qu'on a d'autres choix, Laurence Rossignol?
Non, bien sûr, c'est la justice. Mais on ne peut pas, comme on le fait depuis 2 ans, trop en France, dire aux femmes, parlez, libérez votre parole, et puis en même temps leur avoir immédiatement lancé le message, mais attention, on ne veut pas d'une société de la délation. Parce que si la justice était en situation de rendre justice à toutes ces femmes, eh bien on n'aurait pas simplement 20% des femmes qui portent plainte, 10% des femmes pour viol qui portent plainte, 20% pour violence conjugale, les femmes iraient toutes devant la justice. Mais donc c'est bien parce qu'il y a une défaillance de la justice que les femmes sont aussi réticentes. Alors défaillance de la justice, je ne sais pas, parce que c'est si dur, parce qu'apporter les preuves, parce que tout l'édifice judiciaire, le code pénal, et le code pénal a été construit et inventé au début du 19e siècle par des hommes qui ne pensaient pas que les violences faites aux femmes, le viol, le harcèlement sexuel, le droit de cuissage étaient des délits. Donc le code pénal n'est pas fait pour accueillir ce genre de délits.
On va, si vous le voulez bien, aller aux questions des téléspectateurs. Je voudrais terminer par un témoignage. C'est une jeune fille, s'appelle Lucie Lucas. Elle est actrice, c'est l'actrice qui joue dans la série Clem. Et elle a raconté, puisqu'elle a parlé, il faut le dire, son calvaire de l'enfance à sa vie d'adulte. Elle raconte ses copains de foot à l'âge de 6 ans qui essayaient de la déshabiller dans les toilettes. Ça commençait par ça, à son prof de théâtre qui lui tâtait les seins, c'est ce qu'elle dit, jusqu'à son petit copain qui la violait parce qu'elle était jaloux. Elle a témoigné ce week-end sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas donné ni de nom, elle n'a pas dénoncé d'une certaine manière, en tout cas nommé ses agresseurs, mais elle a témoigné elle aussi. Et on parle là aussi du milieu du cinéma. Donc les filles et les femmes se mettent désormais à parler. Nous revenons maintenant aux questions des téléspectateurs. À vos questions. Ces violences contre les femmes touchent-elles tous les milieux, territoires, générations, nationalités, religions ?
Il y a une enquête très intéressante de la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur qui nous explique quand même très bien que d'abord, ces violences... Le premier risque, c'est d'être une femme. C'est terrible de dire ça, mais enfin, c'est comme ça. Mais qu'en même temps, à 50% des cas,
ce sont des inactifs, c'est-à-dire chômeurs ou personnes retraitées. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Et puis, dans un tiers des cas, vous avez de l'alcool, dans 10% des cas, des stupéfiants.
Et sur la question des territoires, il y a donc une uniformité.
Alors, la question des territoires, j'étais éberluée. Il y a qui sont particulièrement criminogènes, je ne sais pas pourquoi, la Haute-Corse, le Lot-et-Garonne, le Gers et l'Allier. Mais vraiment, sur une carte,
sans
ça se
explication
voit,
particulière.
Je ne peux pas, je ne suis pas sociologue, je ne peux pas vous donner d'explication.
Mais,
je sais pas, pourquoi.
Pas toutes les qualités. Voilà. Allez, pourquoi avoir attendu si longtemps pour prendre de telles mesures? Les gouvernements précédents n'en étaient-ils pas capables?
Je l'ai dit tout à l'heure, cinq plans, des moyens, mais pas les résultats.
Alors, une autre question. Pour une femme victime de violences conjugales, à quoi sert de déposer une main courante?
Surtout pas une plainte, ça ne sert à rien, parce que encore une fois, il n'y a pas d'enquête derrière, vous retournez chez vous, ça risque d'être pire, il faut déposer une plainte, mais pour ça, acceptez d'aller aux urgences médico-judiciaires et d'accepter l'audition devant le policier ou le gendarme. C'est vraiment deux démarches absolument nécessaires, sinon il ne peut rien se passer.
Et lorsqu'il y a harcèlement moral, comment faire? Cela m'est arrivé jusqu'au moment où il y a eu un geste violent.
La même chose, c'est la même chose. Le harcèlement moral...
On peut aller voir la gendarmerie et le gendarme ou le policier pour dire je suis harcelée moralement.
C'est un délit. Moi, je suis en ce moment sur du droit du travail et je travaille là-dessus. Et le harcèlement moral, il y a des tas de gens qui sont licenciés et qui disent ensuite qu'ils ont été victimes de harcèlement moral. C'est à la fois un problème souvent au travail et un problème pénal, bien sûr. Bon. Et c'est pareil, ça peut être constaté par un psychologue ou un psychiatre dans le cadre d'un service médical.
Le plus important ne serait-il pas d'éduquer autrement les garçons dès la petite enfance, hein?
Mais on le voit bien avec l'exemple de l'actrice qui se plaignait que dès 6 ans, les petits garçons essayaient de la déshabiller. Oui. On est face à un problème culturel et même civilisationnel. C'est pas pour ça qu'il faut renoncer et se dire que le patriarcat, bah, faut faire avec. Non, faut le corriger. Mais c'est vrai que ça prendra plusieurs décennies, sans doute une génération. Moi, j'ai l'impression quand même que la génération qui grandit en ce moment, les petits garçons d'aujourd'hui, ils ne pourront pas dire qu'on ne leur a pas dit, quand même. Donc il faut qu'à l'école, comme dans tous les registres de la société, et notamment les médias, le miroir qui soit tendu vers cette génération soit un miroir où l'image de la force physique, de la violence, du machisme, de l'homme puissant qui évidemment est là pour protéger sa famille, mais qui éventuellement peut déraper, tout ça, ça soit éradiqué. Ce qu'on appelait dans le temps une bonne trempe. On a fait des progrès sur la fessée, sur les enfants, et bien il reste aussi...
Et pourtant, vous êtes beaucoup moqué, je crois, monsieur Barbier. Quand j'ai commencé avec la loi pour interdire les punitions corporelles sur les enfants, vous avez fait partie de ceux qui sont moqués, qui se sont moqués.
Il a peut-être bougé avec la société.
Laissez-moi finir, mais tout le monde a le droit de s'amender, vous aussi. Mais cette loi-là sur l'interdiction des punitions corporelles sur les enfants, dans la famille en particulier, elle est indispensable pour apprendre que dans une famille, on ne règle aucun différend, aucun conflit par les coups. Parce qu'un enfant battu a tous les risques de considérer qu'après, la violence est un mode de résolution.
Je ne me moquais jamais, mais moi, j'ai eu un scepticisme, et je l'ai encore d'ailleurs, j'ai un scepticisme sur la manière, par le haut, c'est-à-dire par la loi, de faire bouger vite les choses, alors que c'est par l'éducation, donc par la lenteur et la patience, hélas, qu'on peut les faire bouger définitivement.
On a d'autres questions.
Sans doute, y a-t-il une articulation à trouver entre les deux?
Vous continuerez cette conversation, je vous assure, après, tant que vous voulez. Peut-on comparer les moyens annoncés aujourd'hui à ceux qui existent dans d'autres pays?
En tout cas, non.
Vous avez parlé d'Espagne tout à l'heure.
L'Espagne, par exemple, a mis en œuvre en deux fois, hein, en 99, je crois, et en 2004, elle a mis en œuvre deux réformes très importantes qui ont fait vraiment baisser d'un bon tiers le nombre de féminicides.
Alors parfois, quand on se compare, on se rassure, des chiffres sur les violences faites aux femmes en Afrique du Sud, sur les statistiques publiées en septembre, une femme y est assassinée toutes les 3 heures. Et chaque jour, la police enregistre 110 plaintes pour viol. Comment prouver les violences verbales et psychologiques qui ont lieu dans le huis clos familial?
Ça, c'est le problème de la justice, effectivement. C'est qu'il faut pour le moins un certificat médical d'un hôpital spécialisé, les urgences médico-judiciaires dans les hôpitaux. Mais effectivement, ce qui est très, très utile, c'est de recueillir des témoignages. Ce n'est pas toujours facile.
L'audition, c'est-à-dire des témoignages d'amis
qui ont constaté que la personne était bouleversée, des écrits, des textos.
Moi, je vais faire plus simple, si je peux permettre. Et tout le monde a toujours son téléphone portable à la main.
Voilà.
Sur le téléphone portable, il y a une touche enregistrement.
Je suis d'accord.
Eh bien, on appuie sur la touche enregistrement, on met le téléphone dans le sac et on enregistre le plus possible.
Et la preuve, ça marche. Mais la preuve pénale est libre, donc ça fait partie des preuves pénales possibles.
Que recouvre la notion de suicide forcé? Vous faites comme ça. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Je crois que c'est une question. Non, mais c'est la question de l'emprise, de la contrainte morale. Ça va être très, très difficile à prouver. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est un écran de fumée. C'est faire croire aux gens qu'on va pouvoir prouver ça, mais qu'est-ce qu'elle fera derrière la justice? Ça sera très difficile.
Donner une réalité juridique à la notion d'emprise, c'est sans doute l'un des principaux enjeux de cette loi.
Le nombre de féminicides est-il en hausse?
Oui, cette année, incontestablement, sur l'année 2019,
cette année, il est par rapport à l'année dernière.
Bien sûr, par rapport à l'année précédente. Et donc, il y a un vrai sujet de l'année. Voilà.
Deux femmes par semaine, hein,
femmes,
vous disiez.
Mais
c'est quand même beaucoup.
Par rapport à 2004, les chiffres sont les mêmes par rapport à 2004, mais ça a beaucoup augmenté.
On est revenu en 2004.
Voilà, on est revenu en 2004.
C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h35. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'était à vous. Belle soirée sur France 5.